Chantal sur Radio Grand Ciel, au micro Elisabeth Cougé. Bonjour à tous et surtout bonjour à Christine.
Bonjour Elisabeth.
Qui aujourd'hui va encore m'accompagner dans la visite de la ville dont la découverte nous attend.
Et Elisabeth, qu'allons-nous découvrir aujourd'hui ?
Nous allons jusqu'au sud de l'Italie, dont la capitale est Naples, cité 3 fois millénaire, et l'étape mystique de célèbres grands tours qui étaient effectués par les artistes et les intellectuels et des jeunes étudiants fortunés d'Europe au XIXe siècle. Pourtant, Naples n'a rien d'une ville-musée. Son centre historique s'apparente à un labyrinthe, places ensoleillées, façades baroques, palais des Cati, marchés colorés forment un décor absolument charmant. Il y a aussi la Naples plus monumentale, autour du Palazzo Reale et tout au long du Lungomare, ce qui donne un aperçu de sa puissance passée. Et sur les hauteurs, il y a le quartier de Vomero qui offre des vues spectaculaires sur la baie de Naples.
Déjà beaucoup de choses magnifiques, sans oublier les environs féeriques comme les îles de Capri.
Ou Ischia. Et puis plus loin, il y aura Sorrento, la côte amalfitaine et le tout sous la menace du Vésuve, pardon. Non loin des sites archéologiques magiques de Pompéi, de Herculanum, qui donnent des occasions d'émouvants voyages dans l'Antiquité. Voilà donc
une visite riche qui nous attend dans cette ville, Elisabeth, que tu as visitée 3-4 fois.
Oui, absolument. C'est ça ? Même 4 fois, exactement. Et tout ça dans les dernières années.
Quelle chance.
Ah oui, j'adore. Et je pense que nous y retournerons avec mon mari parce que nous l'adorons tous les deux. Alors, avec riche de tout ce que j'ai déjà vu, je vais essayer d'être un bon guide pour vous.
J'espère, et sûrement.
C'est avec un grand plaisir que je vais vous dépeindre l'atmosphère des vieux quartiers de Naples, la beauté de ces églises et l'atmosphère des vieux quartiers, les splendeurs des îles et la baie de la côte amalfitaine, voilà, si nous le permet quand même.
Alors, en route Elisabeth, mais avant, en fait, la période idéale pour visiter Naples.
Alors allez-y au printemps ou à l'automne, qui sont vraiment les plus belles saisons pour profiter de la ville. La végétation est florissante, la lumière est superbe. Par contre, en juillet et en août, n'y allez pas trop si vous n'êtes pas obligé. Les mois, ce sont les plus chauds de l'année, la température est étouffante, bondée, les nombreux boutiques et les restaurants sont fermés. Du coup, la ville paraît assez déserte. Par contre, les bains de mer sont toujours possibles. D'ailleurs, à partir du mois de mai, vous pouvez y aller jusqu'à la fin du mois d'octobre. D'ailleurs, décembre, sans les bains de mer, est aussi un merveilleux moment pour la découverte de cette cité tout entière occupée et tournée vers les préparatifs de Noël et à l'installation des crèches et des santos en grand nombre.
Les magnifiques crèches napolitaines. Et comment faut-il se déplacer dans Naples ?
Alors, il faut réserver l'usage de la voiture à la découverte des environs et préférer les transports publics ou la marche pour visiter Naples. Il y a d'ailleurs 3 lignes de métro, dont plusieurs stations ont donné une place de choix à l'art contemporain. Les mardis matins, une visite d'1h30 vous est proposée d'ailleurs, qui vous conduira de station de métro en station de métro. Vous visiterez le métro d'ailleurs comme un musée. Et on appelle cela le métro art tour.
On n'a pas ça à Paris encore.
Non. Il y a aussi, je crois que les métros sont moins jolis. Enfin, les stations sont moins belles. Il y a aussi 4 funiculaires qui permettent de relier les hauteurs de Naples avec la baie. Et bien sûr, il y a les bus et les tramways. Pour visiter le centre, il n'y a rien de mieux que de circuler à pied.
Eh bien, commençons la visite de Naples par le centre et à pied, bien sûr.
Alors allons en premier au quartier du Duomo et à la via du même nom qui est une artère essentielle dans la culture napolitaine. Les reliques de San Gennaro, le saint patron de la ville, y reposent, n'oublions pas.
Il Duomo, le dôme, la cathédrale, rien que son nom fait rêver.
Et oui, il Duomo était construit sur le site d'une basilique du 5e siècle par les Angevins en style gothique au 13e siècle. La cathédrale était remaniée entre autres à cause de plusieurs tremblements de terre, mais en plus, les reliques de San Gennaro La cathédrale possède de nombreuses richesses, dont le baptistère paléo-chrétien.
Et qui donc était San Gennaro ?
Eh oui, c'est la deuxième fois que je l'évoque. Il faut savoir, il était l'évêque de Benevent. Il a été décapité, donc c'était un martyr, en 305. Son corps fut transporté ensuite de Benevent à Naples et vice-versa, à maintes reprises d'ailleurs, d'année en année et durant des siècles. Au XVe siècle, lors de la dernière translation du corps, le sang de San Gennaro se mit à couler et fut recueilli dans les ampoules. Depuis, chaque année, le premier dimanche du mois de mai et le 19 septembre, le sang coagulé du saint se liquéfie. Si le miracle est retardé ou ne s'accomplit pas, c'est un mauvais signe. Il y a des graves malheurs qui sont à venir.
Donc espérons que le miracle s'accomplit toujours.
Espérons. Ouais. D'ailleurs, on peut voir le sang du San Gennaro au musée du trésor de la cathédrale. Donc, si vous voulez voir la liquéfaction, il faut y aller le premier dimanche du mai ou le 19 septembre, n'est-ce pas ?
D'accord.
Alors, la Via del Duomo est connue pour ses extravagantes boutiques de mariage où les maîtres et les maîtres de dentelle, d'organdi, de satin s'amoncellent. Le quartier à l'esprit populaire a des ruelles animées, des petits marchés pleins de charme. Néanmoins, il regorge de trésors historiques et culturels.
Et bien sûr, beaucoup d'églises dans la ville, et peut-être même à côté de la cathédrale.
Et oui, les églises sont très nombreuses, quelquefois elles sont à touche-touche. Et tout près du Duomo, effectivement, il y a la Santa Maria Donna Regina Vecchia. J'adore ce nom.
Oui, ça,
qui
ça
loge,
bien, hein.
C'est très musical. Mmh. Qui loge aussi
comme italien,
le,
en général.
Ben, comme toute la langue, c'est vrai. Qui loge aussi le musée diocésain. On y découvre et même dénombre près de 300 œuvres de peintres napolitains du XVIe au XIXe siècle. L'église qui a été commandée par Marie de Hongrie en 1307 est achevée en 9 ans et l'épouse de Charles II d'Anjou aimait tant ce lieu que sa sépulture y fut édifiée. Au premier étage de l'église, allez surtout admirer un splendide cycle de fresques peint à l'époque de sa construction.
Et qu'est-ce qui nous attend encore dans ce quartier si riche en monuments ?
Alors, toujours dans le même siècle et dans le même secteur, il y a eu beaucoup de choses qui ont été créées et nous trouvons le musée d'art contemporain au Palazzo Donna Regina où parmi d'autres œuvres, nous trouvons celle de Jeff Koons et bien sûr d'autres artistes modernes.
Jeff Koons, très très moderne.
Mais
oui.
Tout est dans des
bâtiments vieux palais.
Très anciens, voilà, c'est ça. Il y a aussi l'hôpital Sainte-Marie de la Paix à l'origine, qui était un palais. Il y a eu beaucoup d'églises qui sont devenues des palais et d'autres, oui. D'autres palais qui sont devenus des églises, en a plein. Donc, cet hôpital a accueilli pendant longtemps, après avoir été un palais, il a accueilli pendant longtemps les lépreux, puis recevait des infirmes jusqu'aux années 1960. Ici, d'ailleurs, il y a le plafond, murs, sont superbement décorés et dans les galeries supérieures, il faut monter, visiter où les familles des malades sont venues pour voir leurs parents, mais sans s'exposer à la contagion.
Et aujourd'hui, cet ancien hôpital sert à quoi ?
Au culte des Ukrainiens.
Ah, tiens.
Qui vivent à Naples. Et maintenant, avant une pause musicale, prenons une petite pause. Tradition à l'Antica Osteria Pisano.
On va aussi faire le tour des restaurants un petit peu.
Et un petit peu, oui. C'est un petit restaurant à deux pas du Duomo qui vous séduira par son ambiance familiale et par sa cuisine de qualité. Alors, bon appétit ou buon appetito ?
Pasta e gelati.
On verra. En tout cas, à tout de suite.
Nessun dorma, nessun dorma. Tu pure, o principessa, nella tua fredda stanza, guardi le stelle. Tremano d'amore.
Nous revoici à Naples, à Christine, dans Spaccanapoli. C'est une longue rue étroite qui relie la Via Duomo à la Piazza del Gesù Nuovo. Des dizaines d'églises et des palais s'y sont établis et l'ont transformé ce quartier en un incroyable musée en plein air. C'est un des quartiers les plus animés de la ville, avec ses boutiques, ses ateliers d'artisans, ses universités, ses terrasses de café accueillants.
Il serait impossible de détailler tout ce quartier, Elisabeth. Parle-nous plutôt de ce que tu as vraiment aimé le plus en t'y promenant.
Alors, ce que j'aime le plus dans cette partie de ville et que je visite chaque fois que je retourne à Naples, c'est l'église et surtout le cloître Santa Chiara.
Sainte Claire.
L'église a été malheureusement détruite en grande partie le 4 août 1943 lors du dramatique bombardement et de l'incendie qui s'en est suivi, qui ravagea presque entièrement les ornementations baroques de l'église. Par contre, aujourd'hui, ça a été restauré, mais resté dans un décor extrêmement minimaliste et qui correspond parfaitement avec les règles de Saint-François.
Oui, bien sûr.
Les Napolitains aiment célébrer leur mariage, d'ailleurs.
Et ce cloître de Santa Chiara, pourquoi l'aimes-tu tant ?
C'est une merveille. À l'écart du tumulte de la ville, le couvent des Clarisses derrière l'église abrite ce sublime cloître. Ses murs sont peints d'innombrables fresques, mais c'est son jardin qui force l'admiration. On y découvre avec ravissement les 72 piliers octogonaux couverts de majoliques pins, de vignes et de citronniers. Les bancs et les murets qui structurent la forme générale du jardin sont colorés de scènes champêtres, des paysages napolitains ou des scènes mythologiques. Les tons bleus, jaunes et verts invitent à la rêverie. Des fontaines et des dizaines d'orangers donnent à l'endroit une atmosphère de jardin d'Éden. Non loin du cloître, il y a la piazza et l'église de Gesù Nuovo. La place est bordée de palais et d'églises prestigieuses. Et au centre, une magnifique composition de la Trinité et trône.
Et l'église, comment est-elle ?
C'est un ancien palais qui appartenait au prince Sansevero, qui a été racheté par les jésuites en 1584. Et avec sa façade renaissance au brossage en pointe de diamant, qui paraît assez inquiétant. Donc, ça se voyait bien que c'était un palais qui se protégeait. Il est devenu l'église du Gesù Nuovo. Alors, avant de quitter ce quartier, allez faire un tour dans la Via Sambrogio pour admirer, ou pourquoi pas acheter, des bijoux, des calices, des figurines et des madones illuminées et choisir une jolie crèche parmi des centaines qui vous seront proposées à toute période de l'année.
Sans compter que les desserts napolitains sont délicieux.
Et oui, alors on en trouve beaucoup dans ce quartier. Alors faisons une petite pause douceur dans la pâtisserie Scaturchio, qui est une vraie institution depuis le 19e siècle, avant de continuer notre visite.
Après cette pause de douceur, si l'on descendait vers le bord de mer.
Et oui, allons voir le port qui nous permettra d'aller vers les îles. Mais d'abord, visitons le Castel Nuovo. Cette forteresse a les silhouettes sévères et ses cinq imposantes tours construites à partir de 1279. Pardon, je l'ai rajeuni de cinq siècles. Toujours construit par les Angevins, voilà, par Charles d'Anjou. Et aujourd'hui, c'est devenu un vaste musée qui abrite de nombreuses œuvres d'art. Et là-dedans, il faut visiter absolument la chapelle palatine, le Castel Nuovo avec le Castel Sant'Elmo qui est en haut, qui se trouve en haut des collines, était devenu un élément primordial du système défensif de la ville.
Où nous dirigeons-nous maintenant ?
Alors, on va quitter le Castel Nuovo. Arrêtons-nous maintenant au Théâtre San Carlo, au moins pour le découvrir, sinon y écouter de la musique. Car ce théâtre est un des hauts lieux de la scène lyrique mondiale. Ensuite, les oreilles remplies de musique, allons jeter un coup d'œil à la verrière de la galerie Umberto Ier. Et c'est un passage magnifique, créé en 1890 autour de la coupole centrale qui culmine à 57 mètres de hauteur. La galerie se divise en quatre ailes, indiquant les quatre points cardinaux, et à l'intérieur, des boutiques et des cafés en font un lieu de promenade très, très agréable.
Dans cette galerie, il doit être difficile de ne pas succomber à la tentation.
Alors, il vaut mieux ne pas s'attarder, Christine, et allons rejoindre la place de la Plébiscite, qui est un lieu de parade, de promenade, de fête et de concert. La colonnade de son hémicycle converge vers l'église San Francesco di Paola, Au centre de la place, l'église, par sa forme, rappelle le Panthéon de Rome, avec sa coupole haute de 53 mètres et de 34 mètres de diamètre.
Donc l'église Saint-François de Paul.
C'est ça.
Et le palais royal donne aussi sur cette place, non ?
Exactement. C'est la sortie, enfin je veux dire, la grande porte d'entrée du palais royal est juste en face de cette église-là. Alors le palais royal est une demeure, on ne peut plus royal. À visiter absolument. Vous allez faire des kilomètres de couloirs et d'escaliers monumentaux. Et en sortant de là, un peu fatigué, il y a une autre promenade nous attend en longeant la mer jusqu'au Castello dell'Ovo, qui est la plus ancienne forteresse de Naples et qui n'a pas la forme d'un œuf comme son nom l'indique. Mais il y a un œuf caché là-dedans, c'est une légende napolitaine.
Est-ce qu'on va le retrouver ? En tout cas, après toutes ces promenades, pas de repos pour les braves.
Si. On repart jusqu'à la place de Plébiscite, on remonte cette promenade du bord de mer et on va faire une pause historique qui s'impose au café Gambrinus, lieu de rendez-vous incontournable des Napolitains. Alors après cette pause chic, je vous invite à faire du shopping sur la Via Toledo et découvrir le quartier espagnol qui l'entoure. Il faut savoir que les Espagnols occupaient Naples durant 200 à 300 ans et ont créé ce magnifique quartier au milieu du XVIe siècle. C'est eux qui ont percé cette artère qui est devenue la fameuse Via Toledo. Mystérieux, empreint d'un charme indicible, quartier espagnol constitue l'âme de Naples.
Ça doit être très animé, très coloré.
Ah oui, tout à fait. Dès le matin, ces quartiers éclatent de vie, des voix, de couleurs. Les rues donnent des airs de labyrinthe, mais débouchent inévitablement dans la Via Toledo, où de somptueux palais se dressent tout au long. Cela témoigne d'ailleurs de l'attraction de cette prestigieuse artère sur les nobles et les banquiers venus de toute l'Europe. Entrez donc dans ces banques ou dans les palais si les portes sont ouvertes, ce qui arrive très souvent, dont les décors intérieurs méritent plus qu'un coup d'œil.
Tout à l'heure, tu as parlé, Elisabeth, des stations de métro qu'il faut découvrir.
Et oui, justement, nous y voilà, puisque la station de métro de Toledo, à 50 mètres sous terre, l'artiste catalan Oscar Blanca nous plonge dans un espace bleu et blanc aux formes ondulantes et asymétriques à la manière d'un Gaudi, s'il vous plaît. Des cratères de lumière explorent toutes les nuances du bleu. Dans le hall central, une grande fresque en mosaïque retrace l'histoire de Naples.
Et maintenant, si l'on montait dans les hauteurs de Naples, par le funiculaire peut-être.
Et oui, tout à fait. Montons dans le quartier de Vomero, qui est un quartier résidentiel, pour voir de près le Castel Sant'Elmo, construit au XIVe siècle par les souverains. En juin encore, juste à côté, c'est la chartreuse de Saint-Martin, perchée en haut de la colline du Vomero, jouit d'une vue imprenable sur le golfe de Naples. Fondée au XIVe siècle par Charles d'Anjou, la chartreuse, son église, sa crèche extraordinaire, ainsi que son cloître, entièrement marbre blanc, vous enchanteront et vous y passerez un moment magique.
Et après cette visite, nous redescendons vers la baie.
Oui, bien sûr, avec le funiculaire, bien
entendu. Funiculare.
Et si on y allait manger une pizza chez Michele, et peut-être au Trianon. Moi, je préfère le Trianon, car si on a de la chance, au Trianon, il y a un musicien qui sera là pour accompagner votre déjeuner en musique.
Tarentelle.
Voilà. Alors, il y a un autre musée qui vous attend encore, à Capodimonte, où il y a son parc aussi qui mérite une visite. C'était une résidence royale qui date de l'époque du royaume des deux Siciles et qui d'emblée était destinée à accueillir les œuvres d'art du souverain, en particulier la fameuse collection Farnese, riche des œuvres du Titien, de Botticelli et de Bruegel. Au deuxième étage, on voit l'exceptionnelle collection des peintres napolitains et tout ça mérite vraiment une visite. Comme la flagellation du Christ du Caravage. Après cette jolie promenade, écoutons un peu de musique avant de revenir à Naples et faire quelques excursions sur les îles et la côte amalfitaine.
O sorvolato santos, Baia Blanca, veduto Valparaiso e Riviera. fonte speranza per il Cile, ma un viso sopravvive nel mio volo di notte. Era attraversato un lago argentino, ho avuto freddo, ho sofferto, conosciuto dei giorni colore di notte, e il suo viso vive nel mio sogno di notte, nel mio volo di notte, con te io volerò tutt'al più lontano e tutt'al più su, nel mio volo di notte, con te me ne andrò per il viaggio più bello fino alle stelle ed anche di più. Sotto me Santa Cruz.
Nous sommes ravis de vous retrouver dans cette dernière partie de notre émission Capitale, où Elisabeth est notre guide dans la légendaire capitale du sud de l'Italie, Naples.
Jusqu'ici, nous avons aperçu sous différents aspects cette ville. En 20 minutes, il aurait été difficile de tout voir. Alors, avant d'aller découvrir l'extérieur de Naples, faisons un petit tour en ville et pourquoi pas sous terre.
Dans Naples même, intramuros?
Oui, pas tout à fait. C'est comme un Naples, mais pas tout à fait dans l'intramuros, car le quartier de Rione Sanità, où nous irons d'abord, est en dehors des murs et qui, depuis l'Antiquité, est voué à la sépulture et au culte des morts. Sa visite révèle l'un des côtés les plus mystérieux de Naples. Tandis que la vie explose dans ses faubourgs, au Cimitero della Fontanelle, l'atmosphère est tout autre. Ce lieu est inoubliable. Ici, c'est le point de rencontre entre le monde des vivants et celui des morts. Des milliers de crânes et d'ossements appartenant à des âmes sans nom sont assemblés et jouissent, entre guillemets, des soins des familles qui les adoptent.
C'est très curieux, mais pour quelle raison?
Alors, on les adopte pour l'obtention d'une protection, grâce à leurs prières. Il n'y a pas que le cimetière et de cet esprit-là, il y a aussi les catacombes, qui dès le IIIe siècle se développent en nombre à Naples. Au Ve siècle, San Gennaro d'ailleurs, l'évêque de martyr, s'y trouve aussi avant d'être transféré au Duomo. La fresque qui le représente est probablement la plus ancienne image du patron de la ville. Les vastes salles sur deux niveaux, les peintures et les mosaïques sur les parois en font une nécropole paléochrétienne très importante.
Et si maintenant, nous retournions vers la lumière?
Et voilà, on va préparer notre visite à Pompéi. Allons d'abord au musée archéologique. C'est le roi Ferdinand IV qui l'a créé en 1818 pour y réunir les antiquités de la collection Farnese d'abord, puis pour y présenter les trésors des fouilles de Pompéi et de Herculanum et des autres sites de la région. Et ainsi, ce musée est devenu l'un des musées archéologiques le plus riches au monde. On y trouve entre autres les plus jolies mosaïques de Pompéi, comme par exemple la bataille d'Alexandre contre Darius, qui provient de la maison du Faune à Pompéi, ou d'autres mosaïques venant d'Herculanum.
En sortant du musée, nous prenons la direction de Pompéi.
Oui, presque. En attendant un petit peu, visitons l'hôpital des Incurables et sa célébrissime pharmacie où un double escalier nous mène, ainsi que des boiseries sculptées sont en noyer et en loupe et garnissent tout l'intérieur. C'est absolument splendide. Sur les 400 vases en poterie, nous pouvons admirer les différentes scènes peintes qui permettaient aux commis illettrés, c'est un peu inquiétant des pharmaciens illettrés,
tout à fait, ils n'étaient pas capables de lire les étiquettes.
Mais ils pouvaient identifier le contenu des pots
grâce au dessin. Après cela, je crois que nous sommes vraiment prêts à aller à Pompéi, le rêve de beaucoup de touristes.
Alors, juste un tout petit peu de patience, encore Christine. Quelques mots à propos du Vésuve, qui est l'ensemble de Naples et de Pompéi, bien sûr. Les Napolitains le considèrent comme le symbole de destruction et de fertilité. Il est vénéré de tous. Ses couleurs sont comparées à celles d'un dieu antique ou de quelques puissances infernales. que l'on tente d'apaiser en invoquant, bien entendu,
San Gennaro.
Exactement. On aperçoit sur le fond du volcan une sorte de grande cicatrice blanche qui correspond à l'empreinte du tracé de l'ancien funiculaire stoppé définitivement après l'éruption du volcan en 1944. Alors, connaissez-vous la fameuse chanson napolitaine Funiculi, 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 voilà, je l'ai chantée parce que je ne voulais pas trouver la musique. Elle a été donc célébrée en 1880 l'inauguration du funiculaire. Aujourd'hui, il n'y a plus de funiculaire, il reste la chanson.
Et maintenant, à nous, Pompéi et Herculanum.
Ces deux villes ont été détruites par l'explosion du Vésuve le 24 août 1979. Pompéi disparaît sous un épais manteau de cendres, tandis que Herculanum est recouvert d'une coulée de lave et de boue, ce qui expliquera sa meilleure conservation. Alors, oublieuse des colères du Vésuve, les villes nouvelles de Pompéi et de Herculano, comme on l'appelle maintenant, étendent aujourd'hui leurs tentacules sur des flancs du volcan. Mais nous visiterons bien entendu les émouvantes traces des anciennes. Alors à chaque pas, nous imaginons vivre ces lieux, voyons leurs habitants, tantôt heureux, tantôt affolés, fuyant la colère du Vésuve.
Quand Pompéi a-t-elle été redécouverte ?
En 1748. L'état de conservation de ce musée à ciel ouvert, après plus de 16 siècles de sommeil, est tel que le promeneur imagine facilement les orateurs en toge ou entendent les cris des commerçants sur les marchés ou dans leurs échoppes. Donc, la vie quotidienne de Pompéi ou d'Herculanum il y a 2000 ans.
C'est extraordinaire. Et après ces villes qui nous ramènent à presque 2000 ans en arrière, tournons-nous maintenant vers la beauté époustouflante de l'île de Capri.
Cette île est l'essence même de la Méditerranée, avec des grappes roses de bougainvillées, des pins parasols, des falaises blanches tombant à pic dans une mer turquoise. Les charmantes ruelles de Capri, très branchées, contrastent totalement avec le calme authentique de l'Anacapri. Il faut bien sûr voir les deux et visiter Anacapri, surtout la Villa San Michele. Cette splendide construction porte la marque d'Axel Munt, écrivain et médecin suédois qui s'est énormément donné à la population locale. La villa, son jardin, tout en terrasse et en pergola, est d'un romantisme exquis. Et du haut d'Anacapri, vous aurez une vue plongeante sur les trois rochers mythiques de Capri qu'on appelle les Fragolini.
Et si nous avons encore un peu de temps, allons voir Sorrento.
Alors cet endroit légendaire que les Romains appréciaient déjà, et surtout la douceur de son climat. Aujourd'hui, c'est une ville très touristique. La journée, Sorrento, mais le soir va retrouver une quiétude, heureusement. Une petite invitation encore pour découvrir la côte amalfitaine, d'Amalfi à Positano. Vous y verrez des paysages d'une incomparable beauté, avec des villages accrochés aux rochers. Une végétation luxuriante aux couleurs méditerranéennes font de cet endroit un paradis.
Elisabeth, si après ta description dithyrambique, nos auditeurs n'auraient pas envie d'aller visiter Naples et ses environs, c'est que nous aurions raté notre émission.
Que j'espère ne serait pas le cas. Alors donc, je vous souhaite bon voyage à Naples et à bientôt sur les ondes de Radio Grand Ciel pour une découverte d'une prochaine capitale.
À bientôt.
À bientôt, merci de nous avoir écoutés.
Una donna immobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Sempre un amabile, leggiadro viso, in pianto in riso e menzognero. La donna immobile, qual piuma al vento, muta d'accento. Pensier, e di pensier.